matin, Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
10h04, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à 9h03. À suivre, notre invité, l'auteur, cinéaste Gérard Mordillat. On parle de son nouveau roman Ecce Homo. Il y aura beaucoup de surprises au cours de cette heure culture. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, d'habitude vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, mais aujourd'hui c'est la fête. Vous êtes intéressé à plusieurs programmes.
Oui, pour le même prix, Philippe. Je vous le dis parce que je sais que vous êtes à peu près de vos sous. Mais il y avait tellement de choses à voir que je vous ai fait un petit pêle-mêle. Hein. En fin de semaine, on avait eu la maman de Jonathan Daval qui nous avait rassuré sur la vie de son fils en prison chez nos confrères de RTL. Parce que c'est vrai qu'on s'inquiétait tous.
Non, je ne suis pas inquiète du tout parce qu'il s'entend très bien avec... avec Guy Georges, oui.
J'ai failli finir là-dessus. Je me suis dit, ça va être difficile de trouver mieux ou pire. La question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de l'inviter pour faire la promo de son livre, la dame ? Je suis pas sûr. En tout cas, ça m'avait bien lancé mon week-end. Après, j'ai regardé les Energy Music Awards sur TF1.
Et l'émission qui n'était exceptionnellement pas présentée par Nikos Aliagas, qui s'était blessé sur le plateau de la Starac, Nikos.
Oh, mais c'est tout celui-là. Hein. Il présenterait pas une émission sur les médias et la culture. En effet, Nikos avait fait une mauvaise chute, donc c'est Camille Combal qui le remplaçait.
Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Nikos Aliagas. Nikos est malheureusement blessé. Toucan d'ailleurs embrasse Nikos. Hein.
Gros bisous, Nikos !
Tout le monde l'adore.
Ouais, Toucan, c'est une seule personne. Donc, Camille remplaçait Nikos et tout le monde était content de le voir, notamment Eva Longoria en duplex depuis les États-Unis.
On a tellement de chance, même à distance. C'était Eva Longoria. Bonsoir, Eva.
Hi, Nikos. It's so good to see you.
Bonsoir, Nikos. Ravi de vous voir.
Ça, c'est quand t'as une mauvaise connexion Internet. Tu reconnais pas bien les gens. En même temps, organiser un prime time en Zoom sur TF1, c'est très ambitieux. Et Camille s'était un peu emballée aussi en affirmant ça en début de soirée.
Mais dingue, c'est simple, tous les artistes que vous aimez sont là. Ne cherchez pas ailleurs, ils sont tous à Cannes.
Alors nous, on savait que les artistes étaient à Cannes, mais je suis pas sûr que les artistes, eux, le savaient. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. Comme Ed Sheeran, artiste masculin international de l'année. Comme tous les ans. Donc le mec se déplace même plus.
Bonjour à tous, à l'énergie, à le dire. Merci beaucoup pour l'artiste masculin, c'est la 8e fois. Merci, je suis très honoré, j'espère que vous passez une très bonne soirée, à l'année prochaine.
Ouais, à l'année prochaine, il se pose plus de questions, il sait qu'il en aura un autre dans un an. C'est peut-être que, à cause de cette routine d'ailleurs, hein, que les gens viennent plus, ils se déplacent plus.
Vous êtes moqueur. Il y avait des nouveautés dans la soirée ?
Bah évidemment, Philippe. Hein. Comme ils ont compris qu'ils avaient du mal à faire venir les artistes, maintenant ils font le boulot à l'envers. Ils regardent qui est dans la salle et après ils inventent les prix en fonction. Parce que certaines nouvelles catégories, elles sont compliquées.
Le premier trophée de la soirée, c'est le Energy Music Awards de la reprise ou adaptation francophone de l'année.
Il est un peu tiré par les cheveux celui-là. Hein. Bientôt, tu auras le Energy Music Awards de la meilleure reprise de Serge Labat en trio au Kazoo. Mais écoutons quand même les nommés dans cette catégorie.
Running up that hill, Boris Way. I'm good. David Guetta et Bébé Rexha. Super Freaky Girls. Nicki Minaj.
Je vous rappelle qu'on est dans la catégorie adaptation reprise francophone de l'année. Bon, c'est Soul King qui a gagné. En même temps, c'est normal, c'est le seul qui chantait un peu en français dans toute cette catégorie. Donc il était avantagé par rapport aux autres. En tout cas, bravo à Camille Combal qui a réussi à tenir la baraque en survendant tous les artistes, comme l'aurait si bien fait Nikos.
C'est pas un succès national. C'est pas un succès international. C'est un succès planétaire.
Oui, planétaire, c'est au-dessus d'international. Comme vous, Philippe, qui êtes au-dessus du soleil.
Tiens, crois croire. C'était également le début de la Coupe du Monde hier.
Ouais, et ça a commencé par une très mauvaise nouvelle. On a appris la mort de quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de bonheur ces dernières années. Je parle évidemment de la chatte à Dédé. Oui, c'est fini. La fameuse chance de Didier Deschamps a disparu. Après Pogba, Kanté, Nkunku et Maignan, on a appris samedi le forfait de Karim Benzema pour toute la Coupe du Monde. On n'est pas bien, je vous le dis, moi.
Et alors, est-ce qu'on sait qui va le remplacer ?
Oui, ça devrait être Camille Combal, mais ça va dépendre de ses dispos. En tout cas, si cette année, on veut ramener la Coupe à la maison, je conseille aux joueurs de la voler.
Merci beaucoup Jean-Luc. Allez les Bleus, à demain. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour sur Europe dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Olivier Benkemoun, je me tourne vers vous.
Attendez, ils n'ont pas de chanson cette année, les Français là.
On attend qu'ils gagnent pour avoir la chanson.
Ouais, on ne va pas s'emballer tout de suite.
On s'emballe pas tout de suite.
Il y a des questions médias importantes. Et pourquoi ils n'ont pas une chanson ?
Quand on a la chanson avant la victoire, ça fout la poisse.
Ah ouais.
Hein, souvenez-vous
mais quand on n'a pas les victoires, de
Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday, c'était terrible. Dans un instant, Gérard Mandilla sera avec nous. Mais d'abord, question, votre indispensable ce matin, Olivier.
Monsieur, il n'y en aura pas un, il y en aura deux. Il y aura deux films. Un qui s'appelle Aucun ours et l'autre qui s'appelle Rimini. Deux films étrangers, mais qui sont formidables.
Gérard Mandilla, donc, avec nous, on parle de son dernier livre, Ecce Homo. Mais d'abord, musique avec le jeune chanteur belge, Pierre Demaere, sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Gérard Mandilla.
Bonjour.
Vous êtes romancier, cinéaste, une trentaine de livres seul ou en duo, une vingtaine de fictions, de documentaires parmi les films. Je vais citer Vive la Sociale, Beat the Kick, Fucking Fernand, une série Les Vivants et les Morts, je ne vais pas tout citer. Et ça fait près de 25 ans, peut-être plus, que vous travaillez autour de la religion. Je vais citer Corpus Christi, L'origine du christianisme, L'Apocalypse. Et votre actualité, c'est ce nouveau roman Ecce Homo, titre nietzschéen, chez Albin Michel. Le titre, c'est Ecce Homo, roman d'une ambition extrême. Quelle était votre idée de départ ?
Mon idée de départ était de faire un roman d'aventure où le sphère dit de Turin serait l'objet que tout le monde se dispute, un peu comme la toison d'or dans la mythologie.
Depuis combien de temps vous travaillez sur ce livre ? Parce que c'est plus qu'un récit, c'est plus qu'une fable à travers les âges. Je vais détailler, c'est sur 3 siècles, mais c'est combien de temps de travail ?
Bah, en réalité, sur l'écriture elle-même, j'ai travaillé près de 4 ans, mais c'est l'aboutissement de près de 30-35 ans de travaux de nature historique.
Alors, c'est un roman sur 3 périodes, 3 siècles différents, la France du 14e siècle, l'Italie du 19e, également les États-Unis d'aujourd'hui, avec 3 personnages de femmes, Lucie, qui va devenir Lucia en Italie au 19e, puis Lucie, je ne sais pas prononcer l'américain, qui devient une jeune cinéaste. Lucie, c'est la faussaire, vous l'avez inventée, on ne sait même pas si c'est une femme, parce que, évidemment, votre thèse, je vais la dire tout de suite, le Saint-Suaire n'a de saint que le nom, c'est juste un suaire. C'est juste une étoffe. Mais la peinture qu'on voit, qui est en une du livre, c'est une sorte de faux.
Oui, enfin, c'est une fausse relique. Ça n'a jamais été le suaire de Jésus ni de qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est une véritable œuvre du XIVe siècle, une œuvre peinte. D'ailleurs, les évêques de l'époque, si bien Henri de Troyes que Pierre d'Arcy, ont tout de suite dénoncé la cupidité des moines de Liray qui l'avaient fait fabriquer pour relever des fonds afin de construire une abbatiale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les sources historiques sont absolument incontestables. Donc, voilà, on sait que c'est une œuvre peinte, très bien, et on a voulu croire que c'était une relique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'apparition par la photo.
Alors, on va parler de l'apparition par la photo parce que c'est ça qui est absolument fascinant et c'est cette image qu'on voit. Le suaire a vraiment été volé à Jérusalem, comme vous le racontez dans le roman, par un certain Thomas Merlin de Sainte-Anne, parce que vous appuyez sur des récits historiques, notamment un livre, le livre d'Ulysse Chevalier sur le Saint-Suaire. Où est-ce que vous avez inventé ce vol ?
Non, le vol, ça, c'est de l'invention. Mais parce que le linge lui-même, c'est une chose que l'on pouvait se procurer facilement. Donc, il fallait bien que ça démarre de quelque part, parce que je voulais aussi protéger le mystère. Qu'est-ce qui est volé ? Est-ce que c'est réellement le suaire que protégeaient les franciscains ? Est-ce que c'est simplement un objet de piété ? Enfin, on ne sait pas. Il fallait protéger le mystère pour le plan romanesque, c'est-à-dire c'était hommage à Alexandre Dumas. Quoi, voilà.
J'ai une fascination pour cette histoire. Je vais le dire pourquoi. Ça arrive au 19e siècle. Il y a une photographie qui révèle une image incroyable au monde entier, à supposer que ce soit un faux et qu'il était peint par Pierre, Paul ou Jacques. 3 siècles plus tôt, quand on le prend en photo et qu'on le révèle, en négatif, apparaissent un visage. Je dis apparaissent parce qu'il y a le recto et le verso.
Oui, enfin, ce qui est sur le suaire, on ne voit rien. Hein, donc, on le photographie. Et la photographie, le photographe s'appelle Secundo Pia, ça va révéler des contrastes. En révélant des contrastes, ça va faire monter une image. On imagine la stupeur du photographe qui voit dans le bain de révélateur apparaître un visage et un corps, puisque le corps est représenté de dos et de face, ce qui est d'ailleurs assez amusant.
Alors là, je me fais l'avocat du diable, c'est le cas de le dire. On peut photographier des draps tant qu'on veut, n'apparaîtront jamais des visages. D'où est arrivé ce visage ?
Mais sans doute, ce sont les traces de la peinture ancienne, tout simplement, qui avait disparu au cours du temps, qui s'était évaporée, peut-être parce que le suaire a été un moment victime d'un incendie quand il était à Chambéry, donc il a peut-être été arrosé, chauffé, je ne sais pas. Il était dans un coffre. Donc la couleur a disparu Et puis, en le photographiant, eh bien, les restes sont réapparus. Et à ce moment-là, ça devient très intéressant parce qu'on voit un corps de face et de dos. Et si on s'amuse à le mesurer, là, les rieurs sont de notre côté.
Là où c'est extraordinaire, c'est que dans les années 60 et ensuite plus récemment, il y a une datation au carbone 14. Les scientifiques sont formels. Ce n'est pas l'image de Jésus. L'Église est formelle. Ce n'est pas l'image de Jésus. Et pourtant, des centaines de milliers de gens dans le monde y croient. Il y a un culte autour de ce suaire. Pour quelle raison ? Réponse avec Gérard Mordilla. Vous restez avec nous, on va parler également cinéma. Là aussi, il y a des choses à révéler. C'est Olivier Benkemoun qui arrive. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Mordilla. Ecce homo, ça veut bien dire voici l'homme.
Eh oui.
Voici l'homme, mais je ne vous le présente pas, Hervé Le Tellier. J'ai bonjour, découvert Gérard, Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 avec le roman L'Anomalie. Et vous connaissez depuis très longtemps tous les deux.
30 ans
oui. Bah à peu près, oui.
Des amis de 30 ans, c'est une formule qui parfois porte malheur.
Oui, oui, voilà. Il est moins traître que d'autres.
On est très, très heureux que vous soyez là, puisque j'ai appris qu'il y avait une pièce qui tourne autour de l'Oulipo, ce mouvement fondé autour de Perret qui est au Théâtre du Rond-Point. La pièce s'appelle « C'est un métier d'homme ». Et on me dit, dans l'affaire, il y a Hervé Le Tellier. Et je dis, mais est-ce qu'il voudrait venir en parler ? Et on me dit, oui, il est d'accord. Racontez-nous.
Il est plus que d'accord. Ouais. Il a envie d'en parler.
Quel bonheur. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est cette idée ? D'abord, d'un mot, Oulipo, c'est quoi ?
Ouvreur de littérature potentielle, c'est un groupe de mathématiciens, d'écrivains qui, depuis les années 60, 1960 exactement, se réunissent et travaillent ensemble à la création de textes, individuellement et collectivement. Voilà. Ce texte-là, C'est un métier d'homme, est un texte collectif, composé en fait de textes individuels, mais qui tous sont autour d'un thème qui a été une nouvelle au départ, une nouvelle de Paul Fournel qui s'appelait, qui était la première d'un livre qui s'appelait Les athlètes dans leur tête et qui s'appelait Le descendeur et qui commence comme ça. Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas, à descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord parce que lorsqu'il est en haut, l'homme a envie de descendre en bas. Ensuite, lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre en bas plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis descendeur. Et je m'arrête là, mais ça continue.
Est-ce qu'il y a une contrainte ? Parce que dans mon idée, L'Oulipo, il y a des contraintes. La plus célèbre étant le roman La Disparition, dans lequel Perec a fait disparaître la lettre E.
Exactement. Alors, là, il y a une contrainte, c'est que lorsqu'un jour j'ai dû parler de Paul Fournel à un colloque, je devais parler des qualités novelistiques de Paul Fournel. Et j'ai dit, l'écriture de Paul Fournel est extrêmement structurée, extrêmement puissante. Et regardez, je peux faire n'importe quoi avec sa nouvelle. Mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. D'abord parce que lorsqu'il y a une femme dans une soirée, l'homme a envie de la séduire. Ensuite, lorsqu'il y a plusieurs hommes et une seule femme dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis séducteur, etc. Et comme ça, les Oulipiens ont eu envie de faire tous pareil. Et on a créé une vingtaine de textes qui sont sur le même modèle, avec le même squelette finalement au niveau narratif. Et ça a donné un livre. Ça a beaucoup amusé Frédéric Bellier-Garcia, qui dirigeait à l'époque le Quai d'Angers. Ça a beaucoup amusé deux de ses comédiens, qui sont David Mijot et Denis Foucrot. Ils ont monté une pièce, et cette pièce-là est devenue un petit succès local. On a décidé de la monter au Rond-Point.
Et pendant que vous parliez, ça a beaucoup amusé Gérard Mordilla. Pourquoi ça vous amuse ?
Mais parce que j'ai vu la pièce, parce que je connaissais
c'est
les textes, parce que, évidemment, je suis ce que fait l'Oulipo, je vais au mardi de l'Oulipo, et donc, voilà, c'est de la même famille, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la pièce est extrêmement drôle, extrêmement bien jouée, et toujours sur ce modèle narratif. Alors, on voit un prof de maths, on voit un djihadiste, on voit des tas de gens qui... tous exercent un métier d'homme.
On pense aux exercices de style, comme Zazie dans le métro, ou est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un exercice de style. Alors, en exercice de style, c'est toujours la même histoire, racontée de manière différente. Là, c'est toujours des histoires différentes, racontées de la même manière. Mais à part ça, ça se ressemble.
Voilà, il y a deux comédiens. Vous n'êtes pas sur scène vous-même ?
Pas du tout. Non, non, non. Je laisse ce travail à des bons comédiens plutôt qu'à un mauvais sur scène que je serais. Non, non. Ce sont deux excellents comédiens qui déclinent l'intégralité des possibilités, enfin, une partie des possibilités, autour de cette idée de partir du langage et de le déformer et de montrer tout ce qu'il peut donner.
Le nom me revient, exercice de style, c'est Raymond Queneau.
Oui.
Je ne trouvais plus le nom, il vient de revenir dans mon pauvre cerveau. Qu'est-ce qui fait que c'est séduisant? Parce qu'une fois qu'on a compris le principe, on s'ennuie. Or, si la pièce est réussie, c'est qu'on ne s'ennuie pas.
C'est
donc comment on se renouvelle? Je vais poser la question à Mordilla.
Les acteurs, uniquement les acteurs, c'est ça qui est merveilleux. C'est de voir justement, là aussi, c'est une sorte d'exercice de style pour les acteurs qui, à chaque fois, font vivre et incarnent un nouveau personnage. Et évidemment, c'est plein d'humour, c'est très drôle et on rit beaucoup. Mais parce que grâce à eux, ils sont là, le numéro du prof de maths est inoubliable. Parce que d'une certaine manière, c'est le même texte, sauf qu'on n'y comprend rien et qu'il le fait avec beaucoup d'énergie et de détermination. Ben, c'est les acteurs, il faut rendre hommage aux acteurs.
Et aussi, tout de même, un petit peu le principe, c'est-à-dire que chaque fois que le spectateur découvre un nouveau... c'est un métier d'homme.
Un nouvel angle.
Un nouvel angle. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec ça? Et on a compris le principe, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est le résultat. Et à chaque fois, ça donne un truc complètement délirant, complètement nouveau, le tyran, le féministe, écrit par Clémentine Mélois.
Ah oui, il y a quand même quelqu'un qui vous explique que c'est un métier d'homme.
Bien sûr, féministe, c'est un métier d'homme. Clémentine a fait un remarquable, c'est un métier d'homme avec le féministe. Ça se termine par le terminateur de spectacle. Donc, il y a cette idée que... Bien sûr, on sait comment le texte va se dérouler, puisque c'est toujours le même texte, mais il ne se déroule jamais de la même manière, néanmoins.
Vous l'avez fait tourner, vous m'avez dit ça, pendant que Hervé Letellier s'installait dans le studio, vous l'avez fait tourner, Gérard Mordilla ?
Oui, dans deux de mes films, Hervé est apparu dans deux de mes films, absolument, et notamment, il faisait un journaliste formidable dans Les Vivants et les Morts.
Et il est comment comme acteur ?
Il n'est pas chiant.
Je suis là.
je suis là. Et j'ai la question inverse, évidemment. Il est comment comme metteur en scène, Mordilla, comme directeur d'acteur?
Il n'est pas trop chiant.
C'est parce que vous êtes deux vieux potes que vous dites
en
ça.
En gros, oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hervé Letellier. On le dit tout le temps, c'est un cliché. On dit la porte est ouverte, mais vraiment, la porte est ouverte. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Vous êtes sur quel projet en ce moment? Qu'est-ce que vous écrivez?
J'écris un projet qui est à la fois musical et aussi de dessin. Moi, j'ai écrit des textes. Donc c'est un triptyque, dessin, musique et texte, avec des musiciens et des dessinateurs, autour de ce qu'on peut appeler les jardins parisiens et un hommage à Ravel et Satie.
Voilà, magnifique.
Oui, c'est très joli.
Belle période de la musique mondiale et française en particulier. C'est un métier d'homme, c'est jusqu'au 4 décembre au Théâtre du Rond-Point. Merci d'avoir été avec nous,
merci
Hervé Letellier. Culture Média continue, Gérard Mordilla avec nous.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Mordilla, l'auteur de Corpus Christi, je le dis parce que c'est indiqué sur la couverture de votre livre, votre nouveau roman, il s'appelle Ecce Homo, c'est publié chez Albin Michel. On parle du Saint-Suaire de Turin. Ou alors du Suaire de Turin, je le raconte, il y a cette image du Christ qui apparaîtrait, en tout cas il y a un visage, on ne sait pas lequel il est. J'ai appris quelque chose grâce à vous, parce que je n'ai pas lu tous les évangiles, je n'ai pas lu toute la Bible, Jésus n'est jamais décrit.
Non, on ne sait pas du tout à quoi il ressemblait dans la tradition chrétienne, ni dans la tradition évangélique, ni même dans la tradition ultérieure. Il y a de descriptions physiques de Jésus. On ne sait pas à quoi il était.
On sait au moins s'il était barbu. Est-ce que les hommes de l'époque étaient barbus? Qu'est-ce qu'on sait de lui?
Oui, vraisemblablement, il était barbu. On peut dire ça. Ce qu'on sait de façon sûre, c'est qu'il était juif, et ce qui pose une question centrale sur la représentation du suaire. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a deux traditions. Il y a une tradition qui le voit comme l'homme le plus disgracié qui soit, en citant le prophète Isaïe. Donc c'est l'homme de douleur qui était très laid, etc. Et puis une autre tradition avec Saint Augustin et Chrysostome qui voit au contraire comme le plus bel homme qu'il n'y a jamais eu sur Terre, un ange quasiment.
Ouais, mais Saint Augustin, il est arrivé bien après, il ne l'a jamais vu.
Non, personne ne l'a jamais vu. Les évangélistes aussi ne l'ont jamais vu, il faut bien le rappeler. Ce n'étaient pas des journalistes qui suivaient Jésus. Ils écrivent 50 ans après la mort de Jésus. Donc ils ne l'ont jamais vu et personne ne l'a jamais vu de ceux qui le témoignent.
Et Pilate?
Ah ben Pilate, oui, ça on sait que Pilate a été...
Il l'a vu.
Ah oui, il a vu Jésus, oui.
Qu'il l'a écrit? Et il ne l'a jamais décrit en écrivant sur lui?
Non, jamais, non. Mais Pilate, au moins, on a un appui historique, puisqu'il y a une stèle gravée qui indique qu'il était donc préfet de Judée de 26 à 36. Donc on sait que c'est entre 26 et 36 que Jésus a été exécuté.
Alors je l'ai dit, on découvre ce suaire, les scientifiques le datent au carbone 14, ils disent que c'est un faux, en tout cas ça ne date absolument pas de la mort de Jésus, cette pièce n'a absolument pas 2000 ans, et ce n'est pas ce qu'elle représente. L'Église dit la même chose, le pape dit la même chose, et pourtant il y a toujours cette ferveur populaire, planétaire, un culte autour de cette étoffe. Comment vous l'expliquez, Gérard Mordillat ?
Je pense que c'est le vrai profond problème chrétien, c'est le manque d'image. Parce que le christianisme est cette chose étonnante du mélange de la tradition juive et de la tradition grecque. Chez les juifs, il n'y a pas d'image, mais chez les grecs, il y en a beaucoup. Et d'un seul coup, il faut une image, parce que c'est cette culture. Le christianisme va se développer dans le monde occidental, donc va s'éloigner du judaïsme, et il faut l'incarner. Et puisqu'il y a cette idée de l'incarnation, il faut une image.
J'ai mal posé ma question. Ma question s'adressait à l'amateur de fiction que vous êtes. Comment se fait-il qu'autant de gens soient fascinés par cette étoffe en sachant que c'est un faux ?
Mais parce que l'idée du faux et du vrai ne compte pour rien. Tout simplement parce que le désir de croire est plus fort que toute autre chose. On peut croire que le propre de l'homme, c'est le rire. Non, pas du tout. Le propre de l'homme, c'est le désir de croire. Et le suaire est un objet qui suscite, qui excite, qui incarne ce désir. Voilà. Et c'est pour ça que dans le roman, il y a une dispute pour le posséder, parce que avoir l'objet sacré, c'est soudain être en contact direct avec la divinité.
Et puis aussi, ça peut rapporter. Ça peut rapporter à son monastère. Ça, on l'a très très bien compris qu'il y avait des fins mercantiles. On vous lit, ça, on le comprend tout à fait. Et que, quand bien même est-il faux, la basilique qui le détient a un avantage sur sa consœur à 100 km de là.
Bien entendu, parce que c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que les monstrations du suaire au XIVe siècle sont la prémonition du cinéma. Les gens font la queue, ils donnent leur obol, on les fait rentrer dans une salle obscure, salle de, où va être montré ça. Il y a des sœurs qui chantent un cantique, il y a les chandelles, puis soudain, on hisse ce linge comme un écran. Formidable. Quand on a fini le cantique, on le descend, on pousse tout le monde par la porte du fond et on fait rentrer la deuxième séance. C'est merveilleux. Parce qu'il y a ça, il y a ce désir d'image et cette apparition. Et c'est de l'ordre aussi de l'apparition.
En parlant d'image, vous me disiez qu'il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui présente Trump comme quoi. Enfin, je vous laisse le dire.
Oui. Il y a un livre qui vient de paraître aux États-Unis que m'a fait passer Jérôme Prieur, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, qui présente Donald Trump comme le nouveau Messie. C'est le nouveau Messie, c'est la parousie attendue du retour de Jésus parmi les hommes. Eh bien, c'est Donald Trump.
C'est le livre d'un illuminé ? Ou c'est un livre qui, si j'ose dire, fait des ventes et qui est lu par des gens sains de corps et d'esprit.
Je pense que c'est quand même le livre, d'un illuminé, mais c'est aussi ce que raconte mon roman. Et tout simplement parce que, j'étais content qu'on me fasse passer ce livre, ça confirme mon hypothèse que la fiction marche toujours un pas en avant de l'histoire.
J'allais vous poser ça, pourquoi faire un roman ? À la fin de l'ouvrage, il y a une bibliographie que vous qualifiez de sélective. Il y a plus d'une centaine de livres et des costauds. Pourquoi en roman, qu'apporte la fiction à un essai, par exemple, que vous auriez pu choisir de faire ?
Mais parce que la fiction invente une lectrice ou un lecteur intelligent. Le roman est cet outil ou cette arme extraordinaire qui permet de véhiculer des histoires, de l'histoire avec un grand H, du devoir, du savoir, du pouvoir, toutes les rimes en war que vous voulez. Et surtout, le lecteur s'y retrouve, peut le prendre à bras le corps. Et donc, dans cette confrontation physique quasiment entre la lectrice, le lecteur et le texte, eh bien, les questions dont nous discutons aujourd'hui, elles s'incarnent. Et là, on rejoint l'histoire tout simplement aussi du christianisme et de l'incarnation.
Oui, mais comment on fait pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux ? Poser cette question, justement, où on citait Pilate, un des personnages, Thomas, le prétendument voleur que vous avez inventé du suaire à Jérusalem, il pose la question, qu'est-ce que la vérité ? Et j'ai envie de vous demander à vous, qu'est-ce que la vérité ?
Je pense qu'il n'y a pas une vérité univoque d'une seule voix. Il y a des vérités et que la question...
Pardon, je vous interromps. Il y a des vérités et c'est ce que disait Trump.
Oui, on est... Je pense que Enfin, il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre de la certitude et de l'autre simplement une ignorance. Je crois qu'il faut exercer son esprit critique. Et je pense que c'est tout le travail que j'ai fait dans ce roman. C'est de, finalement, j'espère, raconter une aventure et susciter des lectrices et des lecteurs l'esprit critique, se dire, bah oui, évidemment, il y a des choses à voir et il y a des choses à comprendre.
C'était le cinéma avant l'heure. Justement, on va parler cinéma. Olivier Benkemoun nous rejoint avec Gérard Mandilla. Culture Média continue. À tout de suite, on marque une courte pause.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Mandilla et Cheomo, c'est votre dernier roman. Roman à grand spectacle, pourrait-il devenir un film ?
Ça pourrait devenir, je l'espère, une série, parce que ça s'y prête. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'aventure, de feuilleton, de choses qui permettent de rebondir sans cesse dans l'histoire.
Ça démarre par la bataille de Poitiers, ça va vous coûter un bras en figurant et en chevaux. Un bras, c'est le cas de le dire.
Oui,
en épée et en costume.
Si je le tourne, je commencerai simplement par montrer tous les morts sur le champ de bataille et l'évêque, le futur évêque de Troyes, en train d'essayer de réconforter les mourants.
On va parler fiction et cinéma avec vous, Olivier Benkemoun.
Oui, on va réconforter les vivants, nous.
Ouais, dans votre indispensable ce matin, il y a deux films, un film autrichien, un film iranien.
Ouais. Gérard Mordier, j'avais envie ce matin de vous emmener rencontrer deux ouvriers du cinéma mondial, deux genres très différents d'ailleurs. Le premier est un artisan du cinéma, artisan, c'est-à-dire que chaque minute de cinéma qu'il fabrique est un petit miracle. Il est iranien, il s'appelle Jafar Panahi, c'est un grand réalisateur qui, depuis l'été dernier, est enfermé dans l'une des pires prisons du régime. Ça fait des années qu'on le contraint, qu'on le condamne, qu'on l'humilie, qu'on l'empêche de faire des films et de les défendre à l'étranger. Dès qu'il veut poser une caméra quelque part, on lui fait la misère. Mais malgré tout, Panahi est aussi un acharné. Et de la contrainte de cette condition d'enfermement dans son propre pays, il fait des films. Ou d'ailleurs, il se met en scène. On l'empêche de poser un pied de caméra à Téhéran. Il trouve une astuce, comme vous, pour faire l'idée que vous avez. Lui, il trouve une astuce pour faire un film dans un taxi. Et ça donne l'excellent Taxi Téhéran, Ours d'or à Berlin en 2015. Son nouveau film qui sort cette semaine s'appelle Aucun ours. Et il n'y a aucun ours dans le film, d'ailleurs. Et encore une fois, c'est une mise en abîme de sa condition de cinéaste enfermé dans son pays.
چه نونوار کردی؟ چه خبره؟
آقای من دست بریم مراسم.
Tout le monde parle perse, évidemment, je ne traduis pas. Mais... Bon, le film raconte l'histoire d'un cinéaste qui va s'installer dans un petit village iranien, tout près de la frontière avec la Turquie. La Turquie où toute son équipe de cinéma se trouve. La Turquie, c'est une sorte d'Eldorado de liberté. C'est bizarre de le dire comme ça, mais d'Eldorado de liberté, où les femmes ne sont pas voilées. Et surtout, on peut faire du cinéma. On peut faire du cinéma. Et donc, c'est depuis ce petit village en Iran, par visio, qu'il va essayer de diriger son équipe.
Attendez, par visio, depuis sa prison ?
Non. Alors, attendez, il n'est pas en prison. Là, on est. Jafar Panahi, aujourd'hui, il est en prison, mais lorsqu'il fait le film, il n'est pas du tout.
Compris.
Il n'est pas du tout en prison.
Compris.
Pas encore. Et donc, encore une fois, le film qu'il raconte, c'est lui dans ce petit village. Et donc, depuis ce petit village à la frontière, il essaye par visio de diriger son équipe de cinéma. Et il va se poser cette question, inéluctablement, je la passe ou je ne la passe pas ? La frontière, je quitte ou non cette folie iranienne ? Je continue à domicile la lutte ou pas ? Et parallèlement à ces questions, il y a son arrivée au village qui va créer une sacrée zizanie, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment une sacrée zizanie. Un micro-événement qui va devenir une montagne. C'est d'abord très drôle avant d'être totalement tragique, mais ce film, c'est encore une fois, c'est un geste politique. Il n'y en a pas tant que ça au cinéma.
Et puis Olivier, vous parliez d'un deuxième ouvrier.
Oui, alors là, je vais vous parler d'un personnage de fiction tiré d'un film autrichien qui sort cette semaine, Rimini. Vous connaissez Rimini ? Ouais. Vous êtes déjà allé à Rimini ?
Non, mais je vois très bien ce que c'est. C'est une station balnéaire populaire en Italie.
Exactement, surpeuplée de la côte italienne, surpeuplée l'été, mais l'hiver. Personne ne pense à Rimini l'hiver. Ses plages dans le brouillard, ses casinos vides, ses hôtels déserts. Alors c'est ici que vit notre ouvrier, Richie Bravo. Et je dis parce que c'est un ouvrier de la chanson, Richie. Ah. Il chante, voilà. Et il a la gueule d'un vieux Mickey Rourke, si vous voulez, un peu l'idée. Cheveux blonds, décolorés, nuque longue, tenue de rocker des années 80, aimant le satin et les Santiago. Voilà, ça vous met le personnage. Vivant dans un appartement hyper kitsch, profession donc artisan-artiste, chanteur de charme pour les clubs de troisième âge, et aussi gigolo pour ces dames. Je vous dis, un artisan, des vieilles dames, hein, pour arrondir ses fins de mois.
Richtig ganz ist mir klar, was ich in dir gefunden hab.
Voilà, c'est un crooner.
Ouais, mais c'est pas l'italien.
Ah non, c'est l'autrichien. Richie Bravo termine souvent ses nuits dans l'alcool. Il est autrichien, un pays qu'il ne supporte pas, sa famille en particulier. Son père, sénile, qui est sur la faim, qui lui chante des chants nazis que Richie essaye de couvrir de chansons napolitaines. Enfin, c'est une catastrophe. Richie, il est passé de l'autre côté. Il a donc fui. Et lui, il a fait cet acte de passer la frontière jusqu'au jour où sort de nulle part une jeune femme qui prétend être sa fille. Et contre toute attente, de ce bloc de béton à armée d'égoïsme et d'autosatisfaction confiée à l'alcool va éclore un filet de sentiments. Alors, Rimini, c'est tout à fait Houellebecq. Moi, j'ai adoré. C'est le portrait d'un anti-héros pathétique, pathétique avec lui-même, pathétique avec des femmes qui le payent pour des ou contre des faveurs sexuelles, pathétique avec les Italiens qu'il croise ou les migrants qui sont échoués là. Mais il y a cette minuscule graine d'amour qui sauve ce personnage, imaginé par un réalisateur autrichien, Ulrich Seidel, qui fait pas carrière, on peut le dire, dans les super-héros à Hollywood, hein, vous avez compris. C'est comme Panahi, un artisan du cinéma qui se bat contre toute forme de censure pour raconter ces histoires.
Là, c'était dit l'italien.
Tout est mélangé, quoi.
Aucun ours de Jafar Panahi et Rimini de Ulrich Seidel. Oui. C'est en salle. Ces deux films sont en salle à partir de mercredi, après-demain. Il y en a un des deux qui vous a tenté, les deux, Gérard Mordillat ?
Non, les deux. Absolument les deux. Mais quand je pense au cinéma iranien, je pense à cette remarque de Nietzsche qui disait que quelque chose comme on pensait mieux à l'époque des bûchers. Et c'est vrai que le cinéma iranien, dans les difficultés terrifiantes qui sont les siennes, invente une grande cinématographie.
Pas mieux.
Pas mieux. Pas mieux. Merci Olivier Benkemoun. Dernière ligne droite de l'émission avec Gérard Mordillat. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Mordillat et Che Homo, son nouveau roman, c'est par l'auteur de Corpus Christi. Pourquoi la religion vous fascine autant? D'ailleurs, est-ce que c'est la religion qui vous fascine ou le christianisme?
C'est la littérature. C'est-à-dire le désir de mieux lire, le désir de mieux voir, de jouir de la lecture, de jouir de la vue, d'être dans ce terrain-là. Parce que le christianisme, les seules traces que nous en ayons qui sont des traces tangibles, ce sont des textes. Il n'y a aucune relique, il n'y a même pas de paysage. Enfin si, le mont des Oliviers était bien où il était. Mais sans ça, non, il n'y a rien. Les reliques sont inventées à partir du 5e siècle. Nazareth, que tout le monde visite aujourd'hui, archéologiquement, ça n'existe qu'à partir de 2 siècles après Jésus. Donc voilà, il y a toujours ce manque d'image. Et la poursuite de l'image, eh bien, c'est quelque chose qui, moi, me passionne et me passionne à travers les textes.
Dans votre esprit, ça veut dire que Nazareth n'a pas existé, que c'est un village inventé, un village mythologique, ou ça veut dire qu'il était quelque part et on n'a pas trouvé où?
Les deux hypothèses sont possibles. Peut-être que Nazareth était ailleurs, ou peut-être que c'est une mauvaise traduction de Nazoréen, puisque Jésus était réputé être le Nazoréen, et les Nazoréens, c'était une secte juive, tout simplement. Et de ce Nazoréen, on a inventé la ville de Nazareth. Mais ce sont des hypothèses.
Le paradoxe, quand on s'interroge sur vous, Gérard Mordillat, vous n'avez pas eu d'éducation religieuse?
Aucune, non, pas du tout, non.
Comment est arrivée cette passion, cet intérêt pour cette chose-là?
C'est arrivé par la lecture de Engels sur les guerres paysannes en Allemagne.
C'est pas vrai.
Oui, tout simplement parce que c'est là que j'ai compris une chose sans savoir.
Engels, on va dire, pour les plus jeunes, c'est un des théoriciens du marxisme. Oui,
bah oui, Marx et Engels. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et bien, voilà. Et moi, j'ai compris en lisant Engels et en lisant Ernst Bloch, un historien et un philosophe allemand, quelque chose qui va finalement conduire tous les travaux que j'ai faits, qui est qu'à partir du moment où Luther traduit la Bible et le Nouveau Testament en allemand, ça devient le véhicule du discours politique. C'est-à-dire qu'on croit qu'il parle de, qu'il fait l'exégèse de tel ou tel passage, chacun comprend qu'il parle de la situation concrète dans laquelle ils vivent.
Et je ne m'éloigne pas de votre propos en citant votre autre actualité, c'est une bande dessinée. Vous en êtes le scénariste, vous n'êtes pas dessinateur, c'est Eric Liberge qui dessine. 1525, la guerre des paysans. Chez Futuropolis, qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte l'opposition entre deux prêtres. D'un côté, Martin Luther qui va prendre le parti des princes, qui va défendre les princes et se défendre lui-même. Et de l'autre côté, Thomas Munzer, qui lui aussi est un prêtre, un pasteur, qui lui va au contraire se solidariser avec les paysans, en être la figure porteuse qui est connue à travers l'histoire pour avoir dit sous la torture au moment avant de mourir « Omnia sunt communia », toutes choses sont communes. Engels voyant en lui une sorte de père fondateur de l'idée communiste.
Et c'est d'actualité, évidemment, toujours encore aujourd'hui.
Ah mais c'est absolument d'actualité, parce que cette phrase que je viens citer, on la retrouve dans les manifestations, on l'a retrouvée avec les gilets jaunes, etc. Donc il y a une remontée de cette idée de Munzer et de cette opposition frontale entre ceux qui défendent le bien commun contre ceux qui défendent le profit individuel.
Vous avez cité Engels, Gérard Mordilla, je vais être plus prosaïque, mais je vais quand même citer Marx. Vous avez fondé un mini-club de vélo, c'est le cercle marxiste vélocipédique de Vincennes. Pourquoi marxiste ?
Mais parce que nous discutions de Marx en roulant. Nous sommes des cyclistes, on fait du vélo.
On dirait les Monty Python.
Mais c'est un peu ça.
Les Monty Python, le fameux sketch où c'est les philosophes boxeurs.
Oui, et ben là, c'est un peu ça. C'est des cyclistes boxeurs. Et le jour où un de nos amis, Bertrand Rotté, expliquait à une autre de nos amis, Odile Conseil, tout en roulant et en roulant à vive allure, la différence entre Marx et Ricardo, eh bien, est né le cercle vélocipédique marxiste de Vincennes, qui tourne encore aujourd'hui.
Ça allait être ma question. Il tourne encore.
Ah oui, il tourne absolument, oui, oui.
Et le mot tourner à Vincennes, c'est le cas de le dire, puisqu'on ne fait que tourner, on fait comme un peu des ronds dans l'eau quand même.
Exactement.
Pour qui est allé rouler là-bas à vélo. Prochain projet, Gérard Mordilla ?
Eh bien, encore un projet né de ce fameux cercle, puisque j'ai réalisé avec un des cyclistes, Christophe Clerc, une nouvelle série sur l'économie pour Arte, qui s'appelle « Le monde et sa propriété », qui sera diffusée le 13 décembre sur la chaîne.
Il y avait déjà une série en six volets qui était sortie, oui, il y a 3 ans sur Arte.
Avec Bertrand Rotté qui s'appelait Travail, salaire, profit. Malheureusement, Bertrand est décédé et c'est Christophe qui a continué le travail avec moi.
Redites le titre de la prochaine série.
Le monde et sa propriété.
En 4 épisodes, c'est bien
4
ça.
4 épisodes, oui.
1525, pardon, la guerre des paysans, Gérard Mordilla, au scénario, c'est chez Futuropolis. Et surtout, la principale actu pour vous, c'est chez Albin Michel, ce roman Ecce Homo. Merci beaucoup, Gérard Mordilla.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h. On sera avec la rédac chef du magazine City. Vous vous souvenez du magazine City dans les années 80?
Ah oui, c'est
Emma y renaît de ses cendres. Lydia Bacrier nous expliquera pourquoi et comment on relance ce magazine culte des 80s. On sera avec Denis Brognard, présentateur et champion du monde 2018, ancien joueur de l'OM, Adil Rami. On parle de la Coupe du Monde sur TF1 évidemment, et puis l'écrivain Maxime Chattam dans un tout autre genre pour son nouveau thriller. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord je vous salue
et ensuite, bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Et ensuite je pose la question rituelle, quoi au programme dans quelques instants?
Eh bien nous allons parler de nos gambettes, de vos gambettes. Est-ce que vous avez de belles gambettes?
Mais fait du vélo, tellement, donc ça
oui,
doit pas
je
être
fais
mal,
du vélo
hein.
À Vincennes, on tourne à...
Ah, donc voilà. Vous n'avez pas de problème de varices, de jambes lourdes?
Non, je vous en prie.
Vous n'avez pas de rétention d'eau,
non,
tout ça?
Et si j'en avais, je ne le raconterais pas ici.
Ah, mais bah,
il se trouve
c'est
que
bien
j'en
dommage.
Ai pas. Il
parce
se trouve
nous,
que j'en ai pas.
Pendant une heure, dans Bien fait pour vous, on va parler justement de ces problèmes de circulation, ouais, de rétention d'eau, de cellulite et comment prendre soin de nos gambettes.
Hein, ouais. Et on en parlera du point de vue médical. Est-ce qu'il y a des traitements médicaux qui fonctionnent? Mais le laser aussi, la chirurgie. On en parlera aussi de ces astuces du quotidien qui peuvent être utiles. Vous savez, soulever un peu les jambes du lit,
de jet d'eau froide.
Ouais. Voilà tout ça.
Le massage.
Vous avez des belles jambes, Mordilla?
Avec le vélo aussi.
Mais oui, c'est pour ça, tout le sens de ma question.
Mais vous savez, c'est la grande discussion. Les cyclistes ont de très belles jambes et les footballeurs ont de belles fesses.
Ah,
il faut choisir.
Bah wow. Moi, je suis pour la Coupe du Monde de foot.
Pas mieux. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, à demain.